Bon, Chodesh Tov, Mvorach. Vous savez que on dit que l'ère d'Eretz Israël, c'est écrit dans la Gemara, dans Bava Metzia, que l'ère d'Eretz Israël rend sage. Avira d'Eretz Israël Markim. Donc, grâce à votre retour, vous retrouvez la sagesse. Ce qui est quand même remarquable. Je voudrais étudier avec vous un texte de la Gemara dans Sanhedrin, page 94a, Tzadik Dalet Amud Alef. La Gemara, c'est le Talmud. C'est un texte de Haggadah qui parle d'un verset dans Yeshayahu, c'est-à-dire Isaïe, chapitre 9. De quoi s'agit-il? Pour cela, je vais vous lire le verset dans Yeshayahu. Est-ce qu'il y a ici Yeshayahu? Vous n'allez quand même pas me dire que non. Ah, ben voilà, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, je le dis ici. Non, c'est Yirmiya.
Non, mais je veux
dire. Bon. Yeshayahu, chapitre. Tête. Le chapitre dans son ensemble parle de l'arrivée du roi d'Assyrie en Eretz Israël. Le roi d'Assyrie s'appelait Sanhérib. Dans les Bibles en français, Sennachérib. Mais en hébreu, Sanhérib. Sanhérib projette d'envahir Eretz Israël. Le prophète Yeshayahu annonce qu'il faut lui tenir tête et qu'il y aura la victoire. Il dit, vous en faites pas, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Et une fois que Sanhérib sera écrasé, il y aura un roi qui aura un rôle énorme, un empire immense et qui sera aimé de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que dit le prophète. En fait, il décrit le roi d'Israël, enfin le roi de Juda plus précisément, comme une sorte de Mashiach. Donc, je lis ici le texte, et le prophète nous dit « Qui élève Yuladlan, car un enfant vient de nous naître. Ben Nitanlan, un fils nous a été donné. Vateya Misraal Shichmo, le pouvoir sera sur son épaule. Vaikra Shemo, et on donnera comme nom Pele Yoetz El Gibor Avi Atzar Shalom, ce sont des surnoms du roi. Le Marbe Amisra, celui qui a un pouvoir abondant. Ul Shalom Enketz, et une paix infinie. Al Kise David Bal Mamlarto, sur le trône de David et sur son empire. L'Achinota ou le Saada, pour l'établir et l'alimenter, Bemishpat ou Vitzdaka, en justice et en charité, Me'ata ve'ad olam, jusqu'à toujours, Kinat Hashem Tsevaot, Ta'asezot, le zèle du Dieu des armées fera cela. Bon, c'est pas très clair tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, de manière très claire, enfin, ce qui ressort du prophète, c'est que le roi de l'époque, en l'occurrence le roi Chizkiyahou, en français Ézéchias, eh bien ce roi-là sera le roi espéré, et d'une certaine manière, grâce auquel il y aura une paix éternelle. Quand on dit un roi du peuple juif qui amène une paix éternelle, ça s'appelle comment? Le Mashiach. Et il est décrit en ces termes, on dit « Le Marbe Amisra », celui qui a un pouvoir abondant. Maintenant, le mot « Le Marbe », qui veut dire « celui qui a beaucoup », est écrit d'une façon bizarre. D'habitude, dans la Torah, vous n'avez pas un morceau de tichou, un truc comme ça? Sinon, je peux aller chercher moi. Il
pas un Dieu caractéristique.
Donc, le mot lemarbé, hamisra, celui qui abonde en pouvoir. Abonder, en hébreu, se dit marbé. Maintenant, comment vous écrivez le mot lemarbé? Lamed, mem, resh, bet, hé. Hey. N'est-ce pas? Si vous regardez dans le verset, vous verrez que c'est écrit différemment. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le même, la deuxième lettre du mot lemarbé, c'est le cas unique dans tout le Tanakh où c'est un même final au milieu d'un mot. Un même Sophie, un même final. Les, et alors vous avez un même carré. Les, oui, ponctué, mais c'est sans.
C'est la raison.
Ah, c'est ça, c'est justement la question que se pose la Guémara. Alors maintenant, vous pouvez voir le texte devant les yeux. Regardez dans Sanhedrin, Sadik Dalet, Amoud Aleph. Vous voyez là où il y a écrit Yeshaya Outet, vous comptez 2, 4, 6, 8, 11e ligne. Il y a écrit les marbés, vous voyez? Les marbés, là c'est écrit avec un même entier parce que les imprimeurs n'avaient pas les moyens de mettre un même Sophie au milieu d'un mot. D'accord? Non, c'est la pure vérité. À l'époque où ça a été imprimé, le même Sophie ne pouvait pas entrer chez les imprimeurs. Pourquoi? Parce qu'en général, on le faisait, on mettait des caractères les uns à côté des autres, et le même Sophie, on laissait toujours un espace après. Parce que c'était à la fin d'un mot. D'accord? Bon. Le petit rond, c'est pour nous dire que c'est un verset. D'accord? Non. C'est... Le petit rond, ça n'a rien à voir derrière que le légume qui a un nom qui ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. Bon. Donc, les marbé à Misra ou le shalom enket, celui qui a abondance de pouvoir et une paix éternelle. Amar Rabbi Tanhum, Darash Bar Kapara Betzipori. Rabbi Tanhum enseignait que Bar Kapara a enseigné à Tzipori. Mi penema kol mem shebeemtsa teva patuar. Vezé Satoum. Pourquoi alors que tout même qui est écrit au milieu d'un mot est un même ouvert? Enfin, il reste un petit espace en bas du même. Et celui-ci est un même fermé. D'accord? Et c'est comme si un mot avait voulu. C'est comme si le prophète avait voulu dire un mot. Et puis, ça s'est coincé. Il aurait dû dire le. Et, mais quel mot commençant par un même, conviendrait à un roi aussi grand que Hizkia, Mashiach. Donc c'est comme si le prophète avait voulu dire la Mashiach et que quelque chose s'est coincé. Bikesh Akadosh Baruch Hu, voilà, c'est écrit en toutes lettres. Bikesh Akadosh Baruch Hu lasot Hizkiyahu Mashiach. Akadosh Baruch Hu a voulu faire de Hizkiyahu le Messie. Vesanheriv et faire du roi Sanheriv Gog ou Magog. Faire de lui donc la dernière grande guerre de l'histoire. Si tout avait marché, donc aujourd'hui on aurait eu des. Ça serait vachement chouette, ça ferait des milliers d'années qu'on vivrait dans la paix. On n'aurait pas eu ni la destruction du premier temple, ni la destruction du deuxième temple, ni la Shoah, ni tout ça. Ça aurait été vachement chouette, n'est-ce pas? L'histoire aurait pu arriver à son achèvement au temps de Hizkiyahu. Oui. Qui c'est qui était bien?
Des bons juifs.
Des bons juifs, et alors?
Non, il y a pas eu.
Non, ce qui s'est passé, voilà. C'est raconté dans le Tanakh. Ce qui est raconté dans le Tanakh, c'est que l'empire assyrien était dominé à peu près tout le monde civilisé de l'époque. y compris le royaume de Yehuda. Donc le royaume de Juda, il avait un roi, mais il n'était pas indépendant en vérité. Il payait un tribut au roi d'Assyrie. Donc en fait, il faisait partie d'un empire colonial dont l'Eretz Israël était une partie. Un beau jour, Chizkiyahou se dit, il y en a marre de payer le tribut, il faut que j'alimente mes yeshivot, il refuse de payer le tribut. C'est ça ? Le roi Sanhérib arrive avec une armée immense, il fait la conquête de toute la Judée, sauf Jérusalem, et il arrive à Jérusalem, et il fait le siège de la ville, et le prophète Yeshayahu dit à Chizkiya, ne flanche pas. Une seconde. Chizkiyahou, en détresse, vous rendez compte, Jérusalem n'était pas une très grande ville à l'époque, il a une armée énorme tout autour de la ville. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au Beth Amikdash. Il fait la prière. Il n'a plus de soldats, c'est fini. Il n'a pas de troupes. Il va faire la prière. Il rentre dans son palais dormir, alors qu'il a sous sa fenêtre une armée qui est sur le point d'entrer dans la ville. Il va dormir. Pendant la nuit, un ange fait une sorte d'épidémie dans toute l'armée de Sanhérib, et il y a 185 000 morts chez l'ennemi. Sanhérib lève le siège et s'en va. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, le royaume de Juda retrouve son indépendance politique. N'est-ce pas? Donc, c'était un truc énorme. Ça aurait pu donc être le substitut de la guerre de Gog ou Magog. Hein? J'ai rien compris. Ben, c'est également ce que dit la Guémara. Donc, Bikesh Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a voulu faire de Chizkiyahou le Mashiach. Vesanchériv, Gog ou Magog, et de faire de Sanhérib Gog ou Magog. Et ça n'a pas marché. Mais pourquoi? Non, une seconde. J'ai pas besoin que, si nous avons un texte, nous n'avons pas besoin de faire des devinettes, puisque nous avons le texte. Oui?
Pourquoi alors le même Sophie pourrait appeler Machia?
Non, le même, ça veut dire que c'est un même qui s'est coincé. C'est-à-dire, au lieu d'être Machia, il s'est arrêté là-bas. D'accord? Amra midat adin ifna akadosh baruch hu. La rigueur s'est présentée devant le Saint béni soit-il. Uma David melech Israël, she'amar kama shirot v'tishbachot lefanecha. Comment David, roi d'Israël, il a dit tellement de louanges devant toi. Lo asito Mashiach, tu n'en as pas fait le Mashiach. Chizkiya she'asita lo kol hanisim halalu velo amar shira. Lefanecha ta'aseu Mashiach. Et Chizkiya, à qui tu as fait tant de miracles, n'a pas dit de cantique devant toi, tu vas en faire le Mashiach. Lechach nistatem. C'est pourquoi le même s'est fermé. Pardon?
C'est horrible, genre.
Non, pas du tout. Alors, le problème, il y a ici deux questions qui se posent.
C'est
lui qui décide de tout. La midatadine, c'est Akadosh Baruch Hu aussi. C'est une manière d'expliquer quel est le calcul qui empêche Chizkiya de devenir le Mashiach. Et donc, il y a ici deux questions très importantes qui se posent. D'une part, pourquoi est-ce que Chizkiyahou, effectivement, n'a pas récité le Hallel? C'est ça qu'on lui reproche. Il aurait dû dire le Hallel, étant donné qu'il a retrouvé son indépendance politique. Et il a refusé. Et il a refusé de dire le Hallel pour son indépendance, c'est pour ça qu'il n'est pas le Mashiach.
Mais après, il aurait dû dire.
Oui, une fois que c'est passé.
Ah, c'est une fois que c'est passé.
Une fois que c'est passé, il a été sauvé. Il n'a pas voulu dire le Hallel. La question se pose, mais pourquoi? Ça, c'est la première question qui se pose. La deuxième question qui se pose, quelle? Non, il y a une chose, ça. La deuxième question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est tellement important, au point de faire échouer la réussite de l'histoire. D'accord ? Ce sont deux questions qui se posent. La première, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu dire le Hallel ? La deuxième, pourquoi c'est tellement important ? Jusque-là, vous suivez ? Bon. C'est pas, ça finit pas. Regardez la Guémara, elle continue. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on reproche à Chizkiyahou, on lui a dit, mais écoute, tu vois, tu as retrouvé l'indépendance politique. Il faut faire le Hallel. Il n'a pas voulu. Miyad patra haaretz ve'amra lefanav. Alors la terre a ouvert la bouche et a dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, ani omeret shira, ani omeret lefanecha shira, tachat tzadik zeh v'asu mashiach. Je vais dire moi le cantique à la place de ce tzadik. Et tu le feras, Mashiach. Si tu as besoin d'un cantique, je vais le faire. Patra ve'amra shira lefanav. Et elle a ouvert et dit un cantique devant lui. Sheneema, ainsi qu'il est dit, Mikena fa'aretz zemirot shamanu sevil atzadik. Des extrémités de la terre, on a entendu des chansons en remplacement du tzadik. Est-ce que vous avez déjà entendu la terre faire un cantique, vous ? C'est très embêtant. Imaginez quelqu'un qui me dit qu'il a entendu les montagnes chanter. Je m'inquiète de son sort, oui ? Hein ? Qui c'est le quelqu'un qui a fait ici ? Je pense qu'il s'agit du peuple. Quand on dit la terre, il s'agit du peuple de la terre. Amar, c'est-à-dire le peuple a récité le Hallel. Alors que le roi ne voulait pas réciter le Hallel. Parce que c'est une manière de la Haggadah de s'exprimer. C'est le style de la Haggadah. Amar Sara Olam Lefanav. Alors l'ange du monde a dit devant Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Tivyono Ase Le Tzadik Ze, fais la volonté de ce tzadik. C'est-à-dire, effectivement, puisque le Hallel a été récité, pourquoi ne pas faire de Chizkiyahou le Mashiach ? Yatza bat kol ve'amra. Une voix s'est fait entendre et a dit, Razili, Razili. C'est mon secret, c'est mon secret. Hein ? C'est Dieu. Sa voix se fait entendre, c'est pas un ange. C'est-à-dire, l'ange demande. Pourquoi est-ce que Chizkiyahou ne devient pas Mashiach alors que le peuple a récité le Hallel pour son indépendance ? Et Akadosh Baruch Hu répond, j'ai un secret, j'ai un secret. Quel est ce secret ? Ça veut dire que j'ai une raison d'empêcher que ça vienne maintenant. Amar Navi, alors le prophète a répondu, Oili, Oili, malheur à moi, malheur à moi. Admatai, jusqu'à quand ? C'est-à-dire, si c'est repoussé, c'est-à-dire, si l'occasion messianique a été ratée, et que maintenant c'est repoussé pour plus tard, jusqu'à quand ? Yatza bat kol ve'amra. Une voix s'est fait entendre et a dit. Bogdim bagdou ou beget bogdim bagdou. Vous avez compris ? Bogdim bagdou ou beget bogdim bagdou. Ce qui veut dire, les traîtres ont trahi. Et c'est une traîtrise de traîtres, leur trahison. Ça veut dire quoi ? Ve'amar Rava, ve'itema Rabbi Yitzhak. Alors Rava a répondu, a expliqué que ça voulait dire Ad de Atu, Bazouze ou Bazouze de Bazouze. Jusqu'à ce que viennent les pilleurs et les pilleurs de pilleurs. Les pilleurs et les pilleurs de pilleurs. Rashi, regardez dans Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi ? Il dit Bazouzé des Bazouzé, Hachénit Bazézou sonnait Israël Kamapéamim, jusqu'à ce qu'Israël soit pillé plusieurs fois. C'est-à-dire que, étant donné que l'occasion a été ratée, ça repousse tout jusqu'à ce qu'il y ait au moins deux destructions, la destruction du premier temple et la destruction du deuxième temple. Ça, Bazouzé ou Bazouzé de Bazouzé. C'est pour ça qu'il écrit deux fois Beget Bagdou ou Beget Bogdim Bagdou. La Guémara, elle explique tout. Bon. Hein ? secret, c'est qu'il faut que le monde mûrisse. C'est-à-dire, si Hizkiyahu avait récité le Hallel pour l'indépendance, alors il aurait été le Mashiach. Mais à partir du moment où tout n'a pas été fait comme il faut, alors c'est repoussé jusqu'à ce que le monde soit prêt à cela.
C'est pas plus important le Klal qui a récité.
Ben non, parce que c'était avant le temps. C'est-à-dire, il peut y avoir. Avant le temps. C'est-à-dire, il y a un temps qui est fait pour ça, étant donné que le temps n'était pas encore venu. Alors, il fallait que, s'il y avait eu le roi qui avait fait quelque chose d'exceptionnel, il avait dit le Hallel, ça aurait marché. Mais comme il n'a pas voulu, c'est déjà plus comme il faut, ça revient à l'état du monde tel qu'il est. C'est-à-dire, il n'y a pas encore de mûrissement. Bon, maintenant, oui. Ça ne nous explique toujours pas pourquoi est-ce que Hizkiyahu a refusé de dire le Hallel. Et ça ne nous explique toujours pas pourquoi c'est si important. Pour l'instant, j'en suis toujours avec les deux questions sur les bras. Est-ce que vous imaginez que je n'ai pas l'intention de répondre à ces questions? Certainement pas. Donc nous allons essayer de le faire. Est-ce que je peux t'aider? En aucune façon. Bon. En fait, il y a trois explications possibles pour le comportement de Hizkiyahu. Ces trois explications se basent sur différents textes de la Guémara dispersés partout, qui nous racontent quelle était la personnalité de Hizkiyahu. Les trois explications sont une explication religieuse, il peut y avoir une explication gauchiste, et il peut y avoir une explication nationaliste, de droite. Trois raisons, oui, on va le prouver, il y a trois manières de comprendre pourquoi est-ce que Hizkiyahu refuse de dire le Hallel. Nous allons d'abord commencer par la motivation religieuse. La motivation religieuse est la suivante. Nous savons par le texte de la Gemara dans Pessahim que Hizkiyahu était un roi très religieux. À tel point que quand il a pris le pouvoir, après la mort de son père qui était un roi idolâtre, le roi Ahaz, il a suspendu une épée dans le Beth Amidrash. Il a dit, ceux qui n'étudieront pas la Torah seront transpercés par cette épée. C'est-à-dire le pouvoir politique impose l'étude de la Torah à tout le peuple. Et la Guémara raconte qu'on a après un certain temps, on a vérifié, on a vu que dans tout le territoire d'Israël, il n'y avait pas un enfant, garçon ou fille, qui ne connaissait pas dans le détail les règles de Touma et Tahara, de pureté et d'impureté. Ça, énorme. Donc il a fait un travail gigantesque. Oui, en plus, c'est du plus dur. Non seulement ça, la Guémara nous dit que du temps, enfin c'est basé sur un verset de Yeshayahu, du temps de Hizkiyahu, le pays entier était plein d'épines et de ronces, parce qu'on a cessé de travailler les champs, parce que tout le monde étudiait la Torah. Donc on peut dire que Hizkiyahu est un roi qui est intéressé par une seule chose en fait, par l'étude. C'est ça qui l'intéresse. Tous les budgets de l'État sont consacrés au yeshivot de Hizkiyahu. Tout ça, c'est la Guémara dans Pessahim. Maintenant, on peut très bien comprendre que vient le prophète, Yeshayahu, et il dit au roi, tu sais, grâce à Dieu, maintenant, on a retrouvé l'indépendance. Réponse du roi, mais alors, c'est du politique, c'est pas du religieux, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de signification religieuse, du point de vue de Hizkiya, à un événement politique. Donc il ne peut pas dire le Hallel. Ça, c'est la première interprétation possible. Oui. Non, il a refusé de payer les impôts, de payer le tribut. D'accord ? Bon. Quelle est la raison? Peut-être qu'il se sent assez fort pour se révolter. Mais en tout cas, même s'il se sent assez fort et qu'il aime bien l'indépendance, les Juifs aiment bien être indépendants, mais il ne voit pas en ça une valeur. Il n'y a pas de valeur, disons, de Torah au fait de l'indépendance. Donc il refuse de dire le Hallel. Ça, c'est la première raison qu'on peut donner. Non, il ne dit pas que c'est naturel. Il dit que ce n'est pas important. C'est-à-dire on fait le Hallel pour quelque chose d'important. Or, le politique n'est pas important du point de vue de la conception religieuse de Hizkiyahu. D'accord ? Ça, c'est la première explication. Pourquoi est-ce qu'il refuse de dire le Hallel ? Deuxième interprétation possible. Vous savez qu'il y a un texte dans, d'abord il y a un texte dans Maseret Brachot, là je vais dans un autre traité de la Guémara, où on nous raconte que Chizkiyahou avait l'habitude de se comporter en fonction des secrets de Dieu. De quoi s'agit-il? Le prophète Yeshayahou lui dit, tu vas mourir parce que tu as refusé de te marier. Et pourquoi tu auras refusé de te marier? Eh bien, Chizkiyahou répond, parce que j'ai vu par le roi HaKodesh que les enfants qui vont naître, si je me marie, seront des méchants, des Réchaïm. Et Yeshayahou lui répond, pourquoi est-ce que tu fais intervenir des choses que Dieu a cachées? Tu as une mitzvah, tu dois l'accomplir. Finalement, il se marie avec la fille de Yeshayahou. Et il a des enfants qui sont des Réchaïm, entre autres Ménaché, roi de Yehuda, qui a également tué son grand-père, le prophète Yeshayahou. Hein? C'est très intéressant, mais ce n'est pas notre sujet. Comme ce n'est pas notre sujet, je ne vais pas en parler pour ne pas sortir du sujet. D'accord? Maintenant, ça veut donc dire qu'en fait, il y a une tendance chez Chizkiyahou de réfléchir en fonction de ce qui se passe en haut, pas de ce qui se passe en bas. N'est-ce pas? Et il y a un texte dans le traité de Megillah, page Kaf, Daf Kaf Amud Aleph, page 20a, dans lequel on raconte que lorsque les enfants d'Israël ont passé la mer Rouge, les anges ont voulu réciter un cantique. Et Dieu a dit aux anges, « Comment les œuvres de ma main se noient dans la mer et vous allez réciter un cantique ?» Ça veut donc dire qu'il y a une souffrance chez le Créateur du monde lorsque les ennemis d'Israël sont emportés. Maintenant, est-ce que Dieu a reproché... Merci. Est-ce que Dieu a reproché aux enfants d'Israël d'avoir fait un cantique? Non. C'est-à-dire, les enfants d'Israël, ce sont eux qui sont le sujet de la délivrance, donc eux, ils doivent faire le Shirat Hayam, le Hallel. Mais les anges, non. Maintenant, imaginez ce qui se passe. Chizkiyahou se lève le matin, il ouvre les volets de son palais, et qu'est-ce qu'il voit devant lui? 185 000 cadavres. Il sait qu'il y a une souffrance chez le Créateur du fait que les œuvres de ses mains ont été emportées. N'est-ce pas? Le prophète vient et lui dit, bonjour, Chizkiyahou, t'as vu? Il faut faire le Hallel. Et je ne peux pas. Parce qu'il ressent la souffrance de l'ennemi. D'accord? Donc ça serait une raison possible. Pourquoi est-ce que Chizkiyahou a refusé de dire le Hallel? Troisième interprétation, cette fois-ci de droite. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé du temps du roi Chizkiyahou? Il s'est passé des tas de choses. Du temps de Chizkiyahou, s'est produit le plus grand malheur de l'époque du premier temple. Exactement, la destruction du royaume du Nord, le royaume d'Israël. C'est-à-dire que les Assyriens n'ont pas réussi à détruire Yehuda, mais ils ont réussi à détruire Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la population? Hein? Ils ont exilé. C'est-à-dire que Chizkiyahou a dit, à une époque où des Juifs ont été évacués de leurs maisons, des villes entières ont été déracinées, je ne peux pas dire le Hallel. N'est-ce pas? Donc nous avons en fait trois explications. Il dit... C'est vrai qu'on a été libéré de Sanhérib, mais je ne peux pas me réjouir alors que je vois que les enfants d'Israël, des tribus du Nord, ont été exilés. D'accord? C'est-à-dire qu'ils voient ce qu'il y a de noir et pas ce qu'il y a de blanc dans les événements. Bon, en tout cas, donc, nous avons pour l'instant... Hein, c'est un nationaliste, d'accord? En fait, vous avez donc trois interprétations possibles, à vous de choisir. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Pourquoi est-ce que Chizkiyahou a refusé de dire le Hallel? Hein? C'est-à-dire qu'il ressent la souffrance qui est ressentie dans les hauteurs célestes par rapport à cette souffrance des Assyriens, donc il ne peut pas dire le Hallel. Il participe de la souffrance de ses ennemis. Oui? Non, ce sont trois interprétations différentes. L'une religieuse, l'autre gauchiste, l'autre nationaliste. Oui ?
Il savait que l'Éternel voulait faire de lui le Mashiach ou...
J'en sais rien. Oui ?
Mais si pour la deuxième explication, bah, d'un côté c'est bien, il fait la volonté de Dieu.
Non, mais il ne fait pas la volonté de son peuple. C'est-à-dire que si les enfants d'Israël n'avaient pas récité la Shirat Hayam en sortant de la mer Rouge, ils auraient été coupables. C'est-à-dire, tu es coupable d'ingratitude envers le Créateur. Le fait est là. D'accord ? Ça, c'est la question. Pourquoi est-ce qu'il refuse ? Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi c'est si grave. Mais il y a quelque chose dans sa manière d'être, dans son comportement, dans sa manière d'être roi d'Israël, qui l'empêche de faire le Hallel pour l'indépendance. Donc, qu'est-ce que ça... Maintenant, quelle que soit l'interprétation qu'on donne, qu'est-ce que la Guémara dit ? Il aurait dû dire le Hallel ou pas ? Il aurait dû dire. C'est-à-dire que toutes les bonnes raisons qu'on donne pour ne pas faire le Hallel sont mauvaises. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ces raisons sont mauvaises ? Alors là, il faut... Non, quand je pose la question, c'est pas que je te pose la question, c'est que je la pose pour donner la réponse. Ça s'appelle de la rhétorique. D'accord ? Et en fait, ça nous ramène au problème de savoir pourquoi est-ce que c'est si important le Hallel. Le Hallel est une forme de gratitude. On remercie l'Éternel de nous avoir fait ce qu'il nous a fait. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, le Mashiach, c'est quelqu'un de bien, n'est-ce pas ? Sympa, hein, le Mashiach. Il vient faire quoi ? Mais il vient régler les problèmes. Et une fois que le Mashiach a réglé les problèmes, eh bien, il n'y a plus de problème. Maintenant, quand est-ce que les problèmes ont commencé ? Moi, je pense que c'est bien avant.
Depuis
Adam Arishon. C'est-à-dire, depuis la faute du premier homme, il y a des problèmes. Et le Mashiach, il vient en finir avec ça. Maintenant, la faute d'Adam Arishon. Comme vous le savez, Adam Arishon a fait deux péchés. Qu'est-ce qui est plus grave ? Le premier péché qu'on fait ou le deuxième ?
Le deuxième.
Le deuxième. Très bien. Quel était le deuxième péché d'Adam Arishon ? Hein ? L'ingratitude, dit Rashi. Quand il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger. Et Rashi dit là-bas, c'est là qu'il s'est rendu coupable d'ingratitude. Donc tous les malheurs du monde ont commencé par un acte d'ingratitude. Donc c'est quoi la réparation de ça ? La gratitude. D'où l'importance pour être Mashiach d'être capable de gratitude. Maintenant, pourquoi c'est précisément ce genre de péché qui est en question ? Ça aurait pu être autre chose. Non, ce n'est pas un hasard. Il faut comprendre une chose, c'est que il y a une seule chose qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire à la place de l'homme. Une seule chose. C'est dire merci. Remercier. Parce que tout le reste, Kadosh Baruch Hu peut le faire. Imaginez que j'ai faim. Alors, pour ne pas avoir faim, je mange. C'est une possibilité. Mais à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est pour lui de me rassasier, même sans manger ? Il peut très bien décréter que je n'aurai pas faim. N'est-ce pas ? Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire à ma place, c'est lui dire merci. On peut dire donc que la gratitude, c'est ce qui est attendu de la créature. C'est, disons, là que la créature réussit à être ce qu'elle devrait être. Donc, refuser la gratitude, c'est la pire des fautes. Vous avez compris ? Maintenant, et si on allait un peu plus loin ? Quand est-ce que la gratitude est un mérite ? Quand est-ce que la gratitude est un mérite ? Imaginez, par exemple, que je sois coincé, par exemple, on m'a pickpocketé mon porte-monnaie, j'ai plus d'argent, je suis en pleine nuit, dans un lieu complètement paumé, je suis en train de rater le dernier bus parce que j'ai pas d'argent. Et alors, quelqu'un arrive et me dit, je vois votre détresse, monsieur, prenez du pognon, voilà, vous y êtes. D'accord ? Qu'est-ce que je lui dis ? Merci, c'est la moindre des choses. Mais il peut y avoir une situation dans laquelle je ne me rends pas compte. Donc il n'y a pas de mérite à dire merci. C'est, disons, ne pas dire merci, ça serait terrible. Mais il peut y avoir une situation dans laquelle je me dis, je n'ai pas à te dire merci. Par exemple, alors essayons de voir à nouveau. Imaginez les enfants d'Israël qui sont au bord de la mer Rouge. Il y a une mer houleuse devant. Il y a une armée menaçante derrière. Il y a un désert plein de scorpions et de serpents à droite et à gauche. Qu'est-ce que je fais ? Akadosh Baruch Hu ouvre la mer. Oh, merveilleux, je dis merci. C'est normal. Donc il n'y a pas de mérite en fait d'avoir dit merci à ce moment-là. Quand est-ce qu'il y a un mérite ? C'est quand on peut penser que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui a fait le travail. Et c'est là justement que vient l'épreuve de la Emouna. Le contraire de la Emouna, c'est quoi ? Kfira, n'est-ce pas ? La mécréance. L'hérésie. Il y a deux manières de ne pas avoir la Emouna. La première manière de ne pas avoir la Emouna, c'est la manière qu'on appelle Chiloni. La deuxième manière de ne pas avoir la Emouna, c'est la manière qu'on appelle Dati. Et je voudrais pour cela vous expliquer deux genres de discours qui peuvent être faits pour refuser la Emouna. C'est la question qui se pose. Si je finis la phrase, ça sera peut-être clair. La première manière, donc, chilonite de ne pas avoir la Emouna, c'est de dire « Camarade, ne va quand même pas imaginer que c'est Dieu qui a fondé l'État d'Israël, alors que c'est le palmar. » N'est-ce pas ? La Haganah, le palmar, etc., etc. Donc, c'est la puissance de nos armes qui nous a donné l'État d'Israël. Ça, c'est la manière chilonite de refuser la Emouna. La manière d'Ati, c'est la suivante. Elle dit, comment, tu penses que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fondé l'État d'Israël alors que c'est le palmar ? C'est la même chose. Ce sont deux manières de discours qui, tous les deux, sont un manque de Emouna. Soit pour des raisons laïques, soit pour des raisons religieuses. C'est un manque de Emouna. Par exemple, en fait, il y a un grand principe qui est qu'il y a Akadosh Baruch Hu à une providence qui s'étend sur tout. Toute l'histoire est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, à l'exception du 14 mai 1948. Ça, c'est en dehors du coup. Akadosh Baruch Hu s'est pas mêlé. C'est une manière moderne de refuser la Emouna pour des raisons religieuses. Pourquoi ? Parce que ça a été fait par des chilonim. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu devrait amener la Geoula en fonction de nos schémas à nous, de nos conceptions. Je me rappelle qu'un jour, chez un de mes maîtres, le Rav Tzvi Yehuda Kouk, qui est arrivé un rabbin d'Amérique, et qui, dans son discours, dit au Rav, « Yesh omrim shelo yechola liyot geula al yedei chiloni. » Ce qui veut dire, certains disent que la geula ne peut pas venir par des juifs non religieux. Réponse du Rav, il le regarde en disant, « Kushiot ?» Al ribono shel olam. Tu as des objections à faire au créateur du monde. Le créateur du monde, il a décidé d'amener la Geoula. Il le fait comme il le désire lui, et pas comme toi, tu penses que ça devrait se faire. Quoi ? C'est marqué. Akadosh Baruch Hu, il dépend de ce que tu as marqué toi dans un livre. Akadosh Baruch Hu, il a amené la Geoula. C'est écrit nulle part d'ailleurs, se dit en passant. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire nulle part il est dit que la Geoula se fait par des voies religieuses. Mais je pourrais même vous amener un texte qui dit le contraire. D'accord ? Mais c'est pas ça le problème. Le problème est que lorsque Akadosh Baruch Hu nous sauve de l'asservissement aux nations et nous donne l'indépendance politique, on n'a pas à lui reprocher de l'avoir fait de la manière dont il l'a fait. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Hizkiyahu, il est en dehors du coup. À cause de ça, il n'est pas le Mashiach. D'accord ? Vous avez compris donc ce point, c'est important de le comprendre. Maintenant, vous avez des questions jusqu'à présent ? Ou tout est clair ? Bon. Oui.
Peut-être qu'il l'aurait remercié si, par exemple, l'État, il aurait été comme...
Comme lui, il veut.
Non, comme la Torah le veut.
C'est-à-dire quoi la Torah le veut ? Qu'est-ce que la Torah veut ? La Torah, c'est l'accomplissement de deux choses. De l'alliance d'Akadosh Baruch Hu avec les Avot, Deuxièmement, de l'alliance d'Akadosh Baruch Hu avec le peuple d'Israël. D'accord ? Donc la première alliance, celle qui a été faite avec les Avot, est primordiale. Sur la base de cette première alliance, il y a une deuxième alliance qui est la Torah qui a été donnée aux enfants d'Israël. N'est-ce pas ? Sur quoi porte l'alliance d'Akadosh Baruch Hu avec Abraham, Yitzhak et Yaakov ? Qu'est-ce qu'il leur a promis ? La terre d'Israël pour ses enfants. D'accord ? C'est ça qu'il a donné. La deuxième vient sur la base de cela et pas en remplacement de cela. Il y a un texte très important pour répondre à ta question, dans le livre de Bamidbar, dans lequel il est question de Pessah Sheni. Tu as entendu parler du Pessah Sheni ? C'est quoi Pessah Sheni ? Le deuxième Pessah, hein ? C'est quoi le deuxième Pessah ? Il n'a pas pu faire le premier Pessah, parce que pourquoi il n'a pas pu ?
Il était impur,
d'accord ? Il était impur ou il était loin. Et donc, du temps de Moshe, la Torah nous raconte qu'il y a un groupe d'hommes qui ne peut pas faire le Pessah parce qu'ils sont impurs. Très embêtés, ils viennent voir Moshe. Moshe, qu'est-ce qu'il leur dit ? Écoutez, je vais demander au patron. Akadosh Baruch Hu lui répond, bah, tu sais quoi ? Ils peuvent faire un mois plus tard. La question a l'air complètement déplacée. Si quelqu'un, par exemple, a été obligé de manger à Kippour, est-ce qu'il a la possibilité de remplacer ça par un deuxième Kippour un mois plus tard ?
Non.
Alors qu'est-ce qu'on lui dit au pauvre type ? C'est pas grave, l'année prochaine, si tu as envie, tu feras Kippour. Sinon, tu es dispensé. D'accord ? Quelqu'un n'a pas pu agiter le loulav à Soukhot. On ne dit pas, c'est pas grave, tu le feras dans un mois. L'année prochaine, tu auras un loulav. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû répondre Moshe à ses enfants d'Israël qui lui disent « on n'a pas pu faire le Pessah »
L'année prochaine.
D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il va déranger Akadosh Baruch Hu pour lui dire « écoute, il y a un problème, il faut absolument régler leur problème, etc. » Bon, d'accord, dans un mois, ils font. Comment ? Pourquoi montrer qu'il est un arbre ? Quel rapport avec la question ? La question, pourquoi est-ce que Moshe n'a pas tout simplement répondu ? Là, la chasse, c'est que quand on ne peut pas faire quelque chose, on en est dispensé et que c'est repoussé pour l'année prochaine. D'accord ? Il y a quelque chose qui est bizarre là-dedans. Sans parler du fait que les enfants d'Israël, s'ils n'avaient pas posé la question, c'est ça que Moshe leur aurait répondu. D'accord ? Et donc, il s'est passé quelque chose. C'est que, pourquoi est-ce qu'on fait le Pessah ? Pour rappeler la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe après Pessah ? Quelle est la fête qui vient après ? Shavuot. C'est pourquoi ? Matan Torah. D'accord ? Si les hommes impurs n'avaient pas fait un deuxième Pessah, qu'est-ce qui se serait passé ? Ils seraient arrivés à Shavuot sans faire Pessah. C'est-à-dire qu'ils auraient reçu la Torah sans recevoir Eretz Israël. Et donc, ils auraient été des hérétiques. Ils ont dit à Moshe, écoute, si on ne passe pas l'expérience de la sortie d'Égypte avant la fête du don de la Torah, on est fichu. On devient une religion qui accepte la Torah sans passer par l'alliance des Avot. Ça s'appelle comment ça, cette religion qui accepte la Torah sans parler ? Le christianisme, exactement. C'est-à-dire, le christianisme, c'est cette religion qui a accepté la Torah, mais qui a refusé Eretz Israël. Et c'est ça que les impurs du temps de Moshe ne voulaient pas. D'accord ? Maintenant, intéressant. Comment ?
Ça a un peu marché dans tous les.
Non ? Ça marche que pour Pessah, parce que Pessah, c'est l'accomplissement de la promesse au Avot. D'accord ? C'est ce que dit la Torah dans Shemot chapitre Vav. C'est pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte ? Parce qu'il a promis au Avot de nous faire sortir. D'accord ? Et donc, si on ne se réfère pas en premier lieu, avant la Torah, à l'élément fondamental qui est d'être les descendants des Avot qui sortent pour arriver à Eretz Israël, on tombe dans une sorte d'hérésie. D'accord ? C'est important de comprendre ça. Et donc c'est pour ça que refuser l'État parce qu'il n'est pas conforme à la Torah, en fait, c'est se tromper sur l'ordre des valeurs. On commence d'abord par l'existence de la nation d'Israël. Cette nation d'Israël reçoit la Torah.
On compatit à ça, mais c'est pas la peine d'en faire.
C'est-à-dire, il faut dire à Kadosh Baruch Hu, ton cadeau il est pas bien.
Non, ton cadeau il est bien, mais j'en veux mais... encore plus.
Ah d'accord, donc tout à fait d'accord. Dans ce cas-là, il faut dire, Akadosh Baruch Hu te dira, d'accord, alors dis le Hallel pour le premier cadeau, après on te donnera un deuxième. D'accord ? Tu n'es pas capable de dire merci, alors tu ne recevras pas le deuxième cadeau. D'accord ? Tout ça, je dis ça, c'est un rapport avec la fête qui s'approche très bientôt, celle de Yom HaAtzmaout, qui en fait, si on réfléchit bien, est la date la plus importante du calendrier hébraïque. Je pèse mes mots, je voudrais vous expliquer pourquoi c'est la chose la plus importante. Absolument pas. Non, n'importe quoi. Certainement pas Shavuot, c'est Yom HaAtzmaout qui est la fête la plus importante, et je voudrais vous expliquer pourquoi. Vous connaissez l'ordre des jours saints, des jours de sainteté qu'il y a dans le calendrier. Quel est le jour le plus saint du calendrier? Le plus saint. N'importe quoi. Shabbat. Shabbat, bien sûr. Il y a écrit également pour Kippour, Shabbat, Shabbatot. Mais aussi pour Shabbat. Oui. Il y a une différence. C'est que le jour de Shabbat, tout est interdit. Tout est interdit, et celui qui transgresse le Shabbat, c'est quoi sa punition? Quel mita? Il est lapidé. C'est-à-dire, c'est le plus grave. Quelqu'un qui transgresse Kippour, par contre, n'est pas lapidé, il est simplement Chayav Karet. C'est pas la même chose. Donc, Kippour est moins important que Shabbat. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle à Shabbat, il y a 7 qui montent à la Torah, tandis qu'à Kippour, 6. D'accord? C'est gradué de cette manière. Et le jour de Shabbat, on ne fait rien. Et pourquoi? Parce que c'est en souvenir de la création du monde. Or, la création du monde, c'est à quel jour qu'il l'a fait tout seul. Il n'a été aidé par personne. Donc, quand je veux m'imprégner de la Kedusha de ce jour-là, je dois cesser d'agir comme un être normal agit. Un être normal, il travaille, eh bien j'arrête de travailler, c'est Akadosh Baruch Hu qui travaille. D'accord ? Ça c'est le Shabbat. Maintenant, les fêtes qui sont mentionnées dans la Torah, j'entends par là Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, ces fêtes, elles viennent en souvenir de quoi ? De quel événement ? Quel événement humain ? La sortie d'Égypte. En fait, toutes les fêtes qui sont mentionnées dans la Torah, à part le Shabbat, sont des fêtes qui rappellent différents événements de la même chose, de la sortie d'Égypte. D'accord ? Pessah, la sortie précisément, Shavuot, le don de la Torah, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Sukkot, ce sont également des événements de la sortie d'Égypte, je ne vais pas en parler maintenant, mais croyez-moi. N'est-ce pas ? D'ailleurs, dans toutes les prières des fêtes, on dit Zecher, Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Maintenant, qui c'est qui a fait la sortie d'Égypte? Akadosh Baruch Hu tout seul? Non, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à marcher. On a marché. Si, par exemple, Pharaon s'était levé au milieu de la nuit après la plaie des premiers-nés, il aurait dit, vous pouvez partir. Et les enfants d'Israël disent, non, on ne part pas, on reste là. Il n'y aurait pas eu de Pessah, ni Shavuot, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les fêtes, il y a 95% est fait par Akadosh Baruch Hu, mais il y a un petit pourcentage qui est fait par les hommes. Et donc, les jours de Yom Tov, on peut travailler, on ne travaille pas, mais on peut faire la cuisine. C'est vrai qu'on fait la cuisine à Yom Tov, contrairement à Shabbat. Ça veut dire que pendant les jours de Yom Tov, la même sainteté qu'on trouve dans le Shabbat, on la retrouve chez nous sans cesser d'agir en tant qu'homme. En tout cas, partiellement, pour la cuisine. C'est pour ça que la Torah appelle le Shabbat « Rishon les Mikra et Kodesh », le premier des Mikra et Kodesh, mais après, ça continue. Quelle est la fête qui, historiquement, vient après la Torah? Non, Sukkot, c'est dans la Torah. Après la Torah. Pourim, d'accord? Pourim est la plus ancienne des fêtes qui vient après la Torah. Qui c'est qui a fait l'événement de Pourim?
Les hommes.
À 95%. C'est-à-dire Mordechai et Esther, et puis après les Juifs qui font le massacre. Tout ça, ce sont des hommes. Mais, à Kadosh Baruch Hu, il a quand même agi là-bas. Derrière les... en coulisses, n'est-ce pas?
C'est toujours à 95%. Alors.
Non, mais c'est le contraire. Non, alors que pour Yom Tov, c'est 95% à Kadosh Baruch Hu, 5% les hommes. Là, c'est le contraire. 5% à Kadosh Baruch Hu et 95% les hommes. Conclusion, quels sont les travaux interdits à Purim? Non, il y a deux choses qu'on a l'habitude de ne pas faire, c'est ne pas planter d'arbres, ni de construire des maisons. Pourquoi ces deux choses-là? Parce que ça s'est passé en Chutz La'aretz. Or, comment? Vous allez construire une maison ou planter un arbre en Chutz La'aretz? Folie, non? Donc, ça, on ne fait pas. Mais tout le reste, on fait. D'accord? Quelle est la fête? Oui? On a le droit, mais il faut savoir qu'il y a un minhag qu'on a retrouvé qui existait chez les Juifs du Maroc, qui consistait à ne pas planter d'arbres chez les Juifs du Maroc et ne pas s'habiller de vert, pour la même raison. Et on ne peut pas s'enraciner là-bas. Quelle est la fête qui vient après Pourim? Hanouka. Hanouka, ça a été fait par qui? Ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de l'indépendance, ça a été fait par les Hashmonaïm. C'est eux qui ont fait la guerre. Si on parle de la fiole, fait par Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? D'accord. Donc, l'essentiel de Hanouka, ça s'est fait par les hommes. Mais il y a eu quand même un événement miraculeux dans le Beth Amikdash, la fiole. Qui c'est qui fait la guerre? Les hommes, pas les femmes. D'où la coutume qu'ont les femmes de ne pas travailler pendant que les lumières sont allumées. Mais tout le reste, à Hanouka, est autorisé. Vous voyez donc qu'il y a une tendance de la Kedusha de devenir de plus en plus profane. Mais à Hanouka, c'est la même chose que Shabbat. Simplement, c'est intégré en nous. Puisque nous avons fait le travail, Akadosh Baruch Hu nous laisse travailler. Yom HaAtzmaout, qui c'est qui a fait le travail? Les hommes. 100%. C'est 100%. Comment? Ni Hanouka ni Purim. Ni Hanouka ni Purim sont mentionnés dans la Torah, ni Yom HaTzmaout. Ça veut dire que... Le Mishnah Berurah, oui, bien sûr. Le Mishnah Berurah a été écrit avant l'indépendance d'Israël. Maintenant, on peut l'écrire, si tu veux. Maintenant, ce n'est pas ça qui est important pour l'instant. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à Yom HaTzmaout, il y a eu un événement qui a été fait 100% par les hommes et 100% par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en fait, la Kedusha a été transmise aux hommes au point qu'elles deviennent indépendantes. C'est pour ça qu'on veut dire que le jour de Yom HaTzmaout, c'est la réussite du dialogue entre la créature et le créateur. D'où la justification de ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Yom HaTzmaout est le jour le plus important du calendrier. D'accord? C'est pour ça que l'épreuve de l'Aïmouna se fait là. D'accord? Donc, comme vous l'avez dit ici justement, Yom HaTzmaout n'est pas mentionné dans la Torah, Hanouka n'est pas mentionné dans la Torah, Purim n'est pas mentionné dans la Torah, et même Pessah n'était pas mentionné dans la Torah avant que ça se passe. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un événement avant qu'il se passe, eh ben, il ne s'est pas passé. Mais il faut bien comprendre que ce que la Torah nous dit, c'est qu'il y a une transmission du pouvoir de sanctification des jours d'Akadosh Baruch Hu aux hommes. C'est ça qu'on dit dans les prières, Mekadesh Israël, Ve'azemanim, il sanctifie Israël, et les temps. D'accord? Maintenant, si vous cherchez des allusions à Yom HaTzmaout dans la Torah, on peut en trouver des paquets, mais ce n'est pas ça qui est important. Hein? C'est vrai. Hanouka, c'est Pessah. J'ai pas dit le contraire. Hanouka et Purim ne sont pas mentionnés dans la Torah, et j'ai rajouté également que Pessah n'était pas mentionné dans la Torah avant que ça se passe. D'accord? C'est ce que j'ai dit. D'accord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Shalom.